Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Chez ma grand-mère, à un moment donné, j'avais trouvé des ciseaux électriques.
Oh, wow!
Comme il y a quelqu'un qui trouvait que c'était trop compliqué faire le mouvement de coupe avec des ciseaux. Fait que là, tu pesais sur un piton, puis ça faisait comme un rasoir un peu, là. Mais c'était, ça, tu pouvais couper du papier, puis ça marchait jamais. C'était n'importe quoi. C'était une affaire des années 70, probablement, là. Comme les Polaroids. Les Polaroids.
À Noël, j'ai eu un grattoir avec un gant intégré. Ça, c'est pratique, mais en réalité, ça marche juste pas.
Ouais, même dans le monde de l'auto, il y en a plein de gadgets de même qui ont jamais vraiment survécu.
Des niaiseries comme un tourne-disque intégré dans un dash de char. Ça n'a pas de bon sens.
On a d'autres exemples, hein?
Oui.
On part?
On part. On s'entend qu'un tourne-disque dans un char, on est quand même loin d'Apple CarPlay puis d'Android Auto, où tu branches ton téléphone avec un fil puis t'as accès à toute la musique de ton téléphone dans ton auto. D'accord avec moi?
C'est-tu beau l'évolution?
Et
oui,
voilà.
Je suis d'accord.
Avoir un beau tourne-disque sur ton tableau de bord ou juste en dessous, mais c'est quand même un signe d'une autre époque.
Mais un tourne-disque, tu sais, je veux dire, il y a eu des lecteurs cassettes puis des lecteurs CD, ça c'était commun dans les chars.
Oui, oui, mais
un tourne-disque,
là,
c'était
ça,
comme...
Ouais.
C'était anecdotique, là. C'était pas dans beaucoup d'autos.
Non, c'était limité au Chrysler des années 50 sur quelques modèles. Je sais même pas si on en a eu ici au Canada. C'était un essai et je sais pas si c'est parce que le disque sautait ou quoi. Mais je sais pas comment ils arrivaient
ben,
à garder une certaine stabilité parce que, veux pas, ça devait être gros puis ça devait prendre de la place. Tu vas me dire qu'il y avait plus de place dans les véhicules.
C'était tellement gros.
Mais ça, j'en ai jamais vu. En vrai, je serais très curieux de voir ça. Ça doit être un accessoire recherché par les propriétaires de ces voitures-là maintenant.
Toi qui es né en 1995, as-tu déjà été témoin de lecteur cassette dans une auto?
Absolument.
Oui.
Même que, et là, je vais encore revenir avec ma mère. En 2003,
allô, Suzanne.
Elle a acheté une Volkswagen Golf CL avec comme seule option l'air climatisé. Et devine quoi? Il n'y avait pas de lecteur CD, seulement un lecteur cassette.
En 2003?
En 2003.
Ah, les CD étaient bien implantés,
oui,
en 2003. Là.
Et la preuve, c'est qu'il y avait un beau trou dans la console. Donc,
ah oui.
C'était pour du rangement, qu'on nous disait.
Suzanne aurait pu aller chez Canadian Tire et installer un
lecteur CD. Ouais, mais comme moi, on a la fibre puriste, alors on ne dénature pas un dash.
C'est bien.
Avec un pseudo-alpine.
J'admire. Il y a des technologies comme ça qui font juste évoluer. Tu sais, le lecteur, bon, le vinyle, c'est un peu anecdotique, mais le lecteur cassette est devenu le lecteur CD. Puis même avant ça, il y avait les 8 tracks. Puis là, ben, ça existe encore des lecteurs CD dans les chars, là, mais les constructeurs commencent à les abandonner parce que, ben, maintenant, c'est le streaming. Carrément, on n'a plus de musique physique.
Là, sais quoi, la dernière auto à avoir eu un lecteur cassette?
J'ai envie de te dire le Chevrolet Impala.
Ça, c'est la dernière voiture à avoir eu une banquette à l'avant.
Oui.
Mais,
c'est pour ça que je me disais
oui,
que
oui,
c'était
oui,
ça
oui.
aussi.
T'as quand même un bon filon. Non, c'est la Lexus SC430.
Oh, une très laide voiture.
Ouais,
la décapotable.
Oui, oui, oui.
Oui, oui, oui.
Une voiture destinée à un jeune public.
OK, ben outre la musique, il y a quand même beaucoup de technologies qui ont été intégrées chez certains constructeurs, puis abandonnées. Je pense aux portes en aile de mouette.
Ouais.
Que je sais pas si on peut qualifier ça d'une technologie, là.
Ben, concept, un principe.
Un principe qui était cool à une certaine époque. Écoute, des autos comme, à mon avis, l'auto la plus cool de tous les temps, la DeLorean DMC 12.
Ah, j'étais sûr que t'allais parler de la Mercedes Gullwing.
Oui, c'était ma prochaine.
La première SL.
Qui n'est pas la plus cool, à mon avis, mais la plus belle. La plus belle auto jamais construite. Selon moi, c'est la Mercedes 300 SL avec les portes en aile de mouette. Mais faut avouer que ça, c'est pas devenu mainstream.
Non, pas du tout.
Parce que ça a beau être beau, on s'entend que c'est pas très pratique.
Et oh, je vais te parler d'une autre voiture qui me vient en tête quand je pense à ce type de porte. Et c'est une voiture canadienne. Est-ce que t'as une idée vers où je m'en vais?
Est-ce que ce serait la voiture néo-brunswickoise?
Oh, je pense que tu as visé juste.
La Bricklin SV1?
Tout à fait. Bon, ben, on ne peut rien vous cacher, monsieur.
On n'a plus rien à se dire.
OK, bye.
Mais plus récemment, ben, la Bricklin, c'est une des rares autos canadiennes qui existent. Oui. C'était quand, à peu près?
Au milieu des années 70.
C'était une belle auto. Puis c'est ça, c'est les portes sont attachées comme au centre du toit. Écoute, bonjour les infiltrations d'eau.
Ah, bon, comme le toit hanté.
Oui, ben, ouais, un peu comme les T-Tops. C'était fait pour briser. Ça va être joli, là, mais on s'entend que c'est plus compliqué à faire qu'une porte traditionnelle. Ça va moins bien vieillir. C'est sûr que tu vas avoir du trouble avec ça. Puis ça, tout le monde dans la vie l'a compris, sauf Elon Musk.
Oui, avec la Tesla Model X.
Ouais.
Lui, il appelle ça comment? Des portes faucon, c'est-tu ça?
Te souviens-tu du sketch de François Bellefeuille sur le faucon? C'est comme ça qu'il a été connu.
Ça me dit vaguement quelque chose. Moi, je me rappelle du vrai con, mais le faucon, ça me...
Non, l'animal.
C'est une blague.
Mais oui, les portes de... Je sais que c'était une blague. Mais les portes de la Tesla Model X, c'est ça. On appelle ça les Falcon Doors. Mais en gros, c'est le même principe, sauf que c'est les portes arrière.
Oui.
Les portes avant sont traditionnelles. Ils s'ouvrent comme n'importe quelle porte. Mais les portières arrière du Tesla Model X, c'est des portes en aile de mouette, on peut les appeler comme ça, qui ont donné beaucoup de fil à retordre à Tesla lors du développement du Model X.
Oui, puis on a juste à penser à quelqu'un qui a un stationnement souterrain. C'est pas évident.
Ceci dit, quand ils ont dévoilé le Model X Tesla, je me souviens qu'ils ont fait une présentation où ils collaient vraiment des autos sur le véhicule. Mm-hmm. Puis les portes ont quand même des sensors, là, excuse-moi le bon français.
Vont moduler l'ouverture.
Ouais. Fait que c'est quand même bien pensé. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va vieillir, ces affaires-là.
Il y a la Gumpert Apollo aussi.
Oui, c'est vrai.
Gumpert.
Ouais. On dit Gumpert ou Gumpert?
Moi, j'ai toujours dit Gumpert, mais on peut dire Gumpert.
Gumpert.
Qui a été connu par un jeu vidéo, surtout.
OK.
Probablement Gran Turismo ou Forza. Là. J'ai jamais été un expert de la console.
Un petit pet de la manette. Anecdote.
Quoi?
Je suivais un Model X ici même à Montréal la semaine passée.
Et les portes se sont ouvertes en roulant.
Non, mais il y avait...
Ça aurait été drôle.
Il y avait une plaque personnalisée. Puis, à date, c'est la plaque personnalisée la plus douchebag que j'ai vue.
Il était écrit quoi?
Baller.
Ah, non!
Ta gueule, baller. La personne qui est vraiment baller dans la vie, elle écrit pas baller sur sa plaque.
C'est comme se définir soi-même comme étant baller. Non, c'est
pathétique.
Pas faire ça.
C'est pathétique.
Wow.
Fait que la plaque baller est sur un véhicule électrique, sur un Tesla Model X. Je l'ai vu. Puis c'était un 75 en plus. C'était comme la version de base
du
Model X.
Fait qu'il ballait à moitié. Là.
Il ballait, c'est ça. Il ballait, mais pas assez pour un P100D.
Dans les autres gadgets,
oui,
te rappelles-tu, toi qui es un petit peu plus vieux que moi, de la ceinture automatique dans les années 90? Et je crois que cette technologie n'a pas traversé le millénaire. On voyait cette technologie-là, surtout dans les véhicules. Moi, je pense à la Saturn, la berline Saturn, la SL1.
Oui.
Et c'était utilisé chez Honda aussi. Ça prenait une éternité avant que la ceinture finisse par se boucler.
Mais c'était tellement niaiseux, ça.
C'est pas comme si s'attacher en auto, c'était compliqué.
Non, puis il fallait que tu t'attaches quand même, parce que comment ça fonctionnait, c'est que tu t'assoyais dans l'auto, puis là, la partie supérieure de ta ceinture, comme allait se s'attacher.
Parce que c'est une ceinture trois points régulière.
Oui, sauf qu'il fallait encore que tu attaches la partie en bas, autour de ta taille. Fait que t'avais quand même un mouvement de s'attacher à faire. Fait que c'était vraiment juste une espèce de babiole. Parce que je sais pas si je t'ai déjà raconté ça, Germain.
Oh?
Mais avant d'acheter ma première voiture, ma Malibu 97, on en a déjà parlé.
Passons.
J'étais allé essayer une Saturn SL1 d'un joli rouge vin. Qui finalement n'a pas passé l'inspection parce qu'elle était en train de se manger de l'intérieur.
Ben oui, parce que ces voitures-là sont en polymère.
Ben en fait, les pièces de carrosserie sont en polymère.
Et on l'a dit en même temps.
Puis les gens, souvent, ils se disaient « Ah ben mon char est en plastique, j'ai pas besoin de le faire traiter en tirouille. »
Faux!
Faux en tabarnane, parce que ton char, ben il a fini par rouiller, puis... J'ai failli l'acheter, mais une chance, je l'ai fait inspecter, puis on m'a sauvé la mise. Mais ceci dit, je me souviens quand j'ai essayé cette auto-là.
Je l'ai dit, il a quand même acheté une Malibu, là.
Que... Qui m'a rendu de fier service ouais, pendant ouais. comme 7 ans.
Et à toi et à toute la famille.
Et à toute la famille, Baudouin Mercier.
OK, bon. Bref.
Mais oui, en tout cas, tout ça pour dire que je me souviens très bien du moment où j'ai embarqué dans cette Saturne-là. Puis là, j'entends un bruit comme bouh! Je suis comme, on sait quoi ça? Puis là, je vois comme la ceinture qui s'attache tout seul. Fait que là, je dis au vendeur comme, waouh, quelle énergie de temps je vais faire dans ma vie. Puis là, il me dit, ah ouais, mais oublie pas, faut quand même que t'attaches la partie inférieure. Fait que c'est ça. Technologie stupide.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Je pense aussi à sous le capot. Sous le capot des véhicules, il y a eu des avancées technologiques, évidemment.
Ouais.
Puis il y a eu des choses qui ont carrément été oubliées, qui sont mortes de leur belle mort. Notamment le moteur rotatif.
Ah! Le moteur Wankel!
Wankel! Tu sais qui, Wankel?
C'est un Allemand.
C'est un Allemand.
Qui a dû développer le moteur rotatif.
Félix, de son prénom.
Ouais.
Félix Wankel. Qui, dans les années 50, a développé un moteur qu'on appelle le moteur rotatif. Fait qu'en gros, là, t'as comme une chambre de combustion, puis dans la chambre, il y a une espèce de pièce faite en triangle qui tourne autour de la chambre. Fait que là, t'as comme trois chambres d'air. C'est compliqué à expliquer à l'audio, là. Mais...
C'est compliqué en esti à réparer aussi.
Ouais, mais c'est ça l'affaire. Parce que quand ça a sorti, c'était assez prometteur. On promettait quand même une nouvelle technologie de moteur qui, je sais pas pourquoi, mais pourrait éventuellement battre les moteurs à essence conventionnels. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont pris ça au sérieux, qui ont fait des véhicules, des prototypes, des tests. Mercedes, d'ailleurs, qui a fait le prototype C111. Je sais pas si tu te souviens.
Absolument. La voiture était dorée.
Une très, très, très belle auto qui était équipée d'un moteur rotatif qui s'est jamais rendu, par contre, jusqu'au stade de production. En fait, la seule marque qui a vraiment fait une production massive de moteurs rotatifs. C'est même pas une marque allemande, c'est une marque japonaise qui s'appelle Mazda.
Oui.
Qui a commencé avec un modèle que tu connais peut-être, qui s'appelle la Cosmo.
Oui, absolument. La voiture Mazda Cosmo. Qui a marqué l'histoire, justement, parce qu'elle a été la première à avoir le moteur rotatif.
La première Mazda, en tout cas.
La première Mazda, ouais. Et ils ont fait un pick-up aussi avec un moteur rotatif.
Oh, ça, je ne savais pas.
Et là, je vis un peu de regret parce qu'on aurait pu inclure ce pick-up-là dans notre podcast des voitures avec des noms étranges. C'est le Mazda Repu. Alors, il y a plus faim.
Il puait deux fois.
Hein?
Il puait deux fois.
Non, il y avait plus faim.
Repu.
Il y avait plus faim.
Il est repu.
Oui, il est repu.
Wow.
Alors,
R-E-P-U.
R-E-P-U.
Le Mazda Repu.
Ouais.
C'était un pick-up.
Un tout petit pick-up.
Avec un moteur rotatif.
Ouais.
Wow. Parce qu'on se souvient évidemment du moteur rotatif pour les RX-7 et RX-8 ouais. qui a suivi. J'ai eu l'occasion d'ailleurs cet été de conduire une RX-7.
Oui.
Une RX-7 des années 90.
Ouais.
Que j'ai franchement.
Ben, moi aussi.
Toi aussi, tu l'as conduit,
oui.
C'est vrai. Mais c'était le fun à conduire, ça.
Oui, mais décevant.
Oui?
Mes attentes étaient trop élevées, je pense.
Mais peut-être, c'est parce qu'il ne faut pas que tu le compares à un modèle d'aujourd'hui.
Non, je sais.
C'était quand même salement puissant pour l'époque. Là.
Oui, oui, oui. Mais je trouvais ça un peu bateau. La direction n'était pas aussi précise que je pensais.
Ça craquait un peu. C'était pas un modèle...
Ça craquait pas mal. Les vitesses passaient mal. Elle avait 30 000 km, mais elle donnait plutôt l'impression d'en avoir 130 000. C'était rien d'impressionnant à mes yeux.
Ça, c'était un modèle que Mazda avait dans sa collection, ouais. le constructeur Mazda Canada, puis qui a prêté à certains journalistes. Moi, j'étais bien surpris quand ils nous ont prêté ça.
Ouais.
C'est rare que les constructeurs font ça. Puis en plus,
d'ailleurs, il aurait pas dû. Mais...
Il aurait peut-être pas dû. Puis en plus, ils nous ont donné aucune limite de kilométrage.
Mm-hmm.
Moi, j'ai notre collègue William Clavé, il vient de Sherbrooke. Il est allé chiller à Sherbrooke avec ce char-là, pas de trouble. Puis c'est correct, parce que Mazda, il avait imposé aucune limite. Mais c'est drôle de faire ça un véhicule de collection. Parce que c'est devenu un véhicule de collection parce que le moteur rotatif, ben c'est mort. Ça consommait beaucoup d'essence quand
ouais.
même. Entretien, tu l'as dit, assez difficile.
Ouais.
Pas tous les mécanos qui veulent jouer là-dedans non plus.
Et en fait, il y en a très peu, c'est ça. Là.
Mais c'est ça, c'est des spécialistes en Mazda. Là,
ouais, le garage du coin que je fréquente habituellement...
Il fait ça?
Non, mais pendant longtemps, il y en a eu deux abandonnés
ouais.
là.
OK.
Carrément.
Je connais un peu le feeling là, avec mon Westphalia. Je te dirais que c'est pas tout le monde qui veut jouer là-dedans non plus.
Ouais.
Les moteurs à plat. Mais ouais, le moteur rotatif. Puis ça consommait de l'huile aussi. En tout cas, c'était beaucoup de troubles à se donner pour finalement...
Très peu d'avantages.
Ouais, parce que c'était pas plus puissant qu'un autre moteur.
Non, mais ça pouvait révolutionner très haut.
C'était surtout ça.
Voilà.
C'était surtout pour ça. C'est cool.
Une petite cylindrée, c'était des moteurs... En termes de volume, qui était plus petit, mais qui pouvait révolutionner très haut. La sonorité est spectaculaire.
Le son était cool.
Ouais. Bon, changement de sujet complètement.
Oui.
T'es-tu resté pris, toi, cet hiver, ou pas encore?
Knock on wood?
Ah ouais?
Mais non, je suis pas resté pris encore.
Bon, ben moi, ça m'est pas arrivé à moi, mais à des gens de mon entourage, oui. Et j'ai eu à pousser. Et à la fin des années 60, il existait un bidule, une espèce de bonbonne de liquide qui était placée dans le haut de l'aile arrière, parce qu'à ce moment-là, la plupart des voitures étaient propulsion.
Ça, c'est fascinant.
Et il y a du liquide qui était aspergé sur la roue arrière pour essayer de donner un peu de traction. Je sais pas, par contre, c'était quoi le liquide. J'espère que c'était pas juste de l'eau, parce que si oui, ça devait geler instantanément. Puis je vois pas quelle autre forme de liquide pourrait donner en un claquement de doigts.
La colle.
Ah, voilà. Mais là, tu vas rester pogné.
C'était un bouton dans ton dash que tu pèses, puis ça envoie, ça asperge ce liquide-là sur tes pneus pour te déprendre d'un banc de neige.
T'as tout compris.
J'ai vu les photos que tu m'as montrées. C'était assez fascinant. Moi, honnêtement, j'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à avant d'entrer en onde. Je trouve ça quand même drôle comme idée. C'était peut-être l'ancêtre du rouage intégral.
Il y a un début à tout.
Ah là là, mais je veux dire, l'hiver date pas d'hier. Quand tous les chars étaient des gros bateaux à propulsion, j'imagine
qu'il y avait les pneus à chaîne aussi.
Les pneus à chaîne, les fameux traction aid.
Puis la fameuse poche de sable dans la valise en arrière. Là.
Oui, ça c'était... Mon grand-père avait ça dans son vieux pick-up.
Un classique.
Oui, la poche de sable pour mettre un peu de poids.
Est-ce qu'on reste dans les années 60? J'ai envie de te parler du Ford Wrist Twist. Non, ce n'est pas une sorte de réglisse. C'est plutôt...
Dommage, j'ai un peu faim.
Dommage. C'est une forme d'alternative au volant conventionnel. Donc, au lieu d'avoir un grand volant lié à une colonne de direction, c'était plutôt deux roulettes qui remplaçaient un gros volant. Donc, ça permettait d'éviter de faire des gros mouvements avec les bras. C'est très sexiste, mais le constructeur à ce moment-là, qui était Ford, on est au milieu des années 60, visait un public féminin. Faut dire aussi qu'à l'époque, le power steering ou l'assistance de la direction...
La cerveau direction. Ça n'existait pas.
Ben, ça existait, mais c'était pas sur tous les modèles, là, vraiment pas. Alors, effectuer un virage pouvait être un peu plus périlleux. Alors, on avait essayé de développer. Allez voir ça sur YouTube. C'est fascinant.
En gros,
petits volants au lieu d'un gros volant.
Comment ça s'appelle?
Le Ford Wrist, comme un poignet. Twist.
Wrist twist.
Donc, au lieu de tourner avec le bras, avec le bras complet, on tournait les roues avec le poignet, tout simplement. Les deux poignets.
Puis ça, c'était une technologie qui était ouvertement targetée ou dirigée vers les femmes.
Ben, en tout cas, dans les vidéos d'époque, le monsieur ouvrait la portière à la dame.
Waouh, on dirait un cockpit de jet.
Ouais, ça change beaucoup de...
Très bizarre. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour séduire les femmes?
Ah, ben ça, Studebaker y a pensé aussi.
Studebaker?
Oui.
C'est pas Dodge qui avait créé la Dodge, la femme?
Ah, ben absolument, mais là, on n'est pas dans les gadgets.
Ah, c'était quoi, Studebaker?
Studebaker, dans son modèle Avanti, avait une option très inusitée. Du côté du coffre à gants, du côté passager, on avait une trousse de maquillage.
Oh, donc, c'est queer friendly?
Donc, ouais, puis c'est surtout, mesdames, ne prenez pas le volant, restez du côté passager et surtout, prenez le temps de vous mettre belle. Hein, puis surtout, vous avez besoin de maquillage pour être belle. Vous aurez compris toute l'ironie dans mon propos.
Ouais, ça c'est très ordinaire.
Ça fait très années 60.
Parce que c'est pas parce que t'aimes les voitures que tu peux pas être ouvert au changement puis au féminisme puis à toutes ces belles affaires-là. Bon, Germain, je veux finir la technologie qui a jamais vraiment levé. Le rêve ultime de tout amateur d'automobile.
Ben
et
là,
j'ai nommé La voiture qui vole.
Non!
La DeLorean de Back to the Future, mon ami.
Ouch! C'est
où?
Vrai, hein?
Et où, mon auto volante? Ça fait 19 ans, l'an 2000. Et où?
On mange toujours pas de pilules pour à tous les repas. Hein,
puis il y a pas encore d'hydrateur à pizza, comme encore une fois dans le 2015 de Monsieur Spielberg dans Back to the Future. Il y a plein d'affaires comme ça qui m'ont été promises quand j'étais jeune, puis qui ne sont pas livrées à l'âge adulte.
J'aurais demandé un remboursement.
Mais je suis en train de parler là à Michael J. Fox. Là.
Ouais.
Il m'écrit des lettres, mais c'est dur à lire.
Ah, c'est chien!
Mais la voiture volante, Germain, est-ce que tu savais? C'est pas juste un fantasme, là. Il y en a qui travaillent vraiment là-dessus.
Moi, ça me fait zéro rêver. Là.
Non?
Non, pas du tout.
Voler.
Ben, je prends l'avion de temps en temps quand ben, j'ai besoin de voler. Hein.
L'avion, c'est comme un autobus volant.
Si j'ai besoin de voler, je me mets une cagoule puis je m'en vais dans une banque. Là.
Tu fais ça, toi?
Ouais.
Aux chemises que t'achètes, c'est sûr que tu voles pas grand-chose. Non, mais en 1926, fait que ça fait presque 100 ans,
ouais.
Henry Ford.
Ah.
Tu connais Henry Ford?
Le Henry Ford.
Le Henry Ford. Il a commencé à travailler sur un concept. J'imagine qu'on peut appeler ça d'une auto-volante. C'était vraiment un petit avion à juste une place.
OK.
Brandy Ford à grandeur, là, un gros évidemment. Logo Ford. Puis l'idée, c'était de développer une espèce de transport individuel aérien.
Ça n'a pas marché.
En fait, il a abandonné l'idée parce que quelques années plus tard, il y a un pilote qui est décédé durant les essais de cette chose-là. Puis d'après moi, ça il a fait bien de la peine à M. Ford. Puis peut-être qu'il a réalisé que... Peut-être que c'était une idée en avance sur son temps. Peut-être qu'il s'est dit, je vais laisser ça aux gens de l'an 2000. Puis les petits gens de l'an 2000, mais ils l'ont jamais fait.
Ah! Les sacripants!
J'étais encore obligé de changer mes pneus. Mais il y a quand même, ceci dit, une compagnie que tu connais peut-être qui s'appelle Aeromobile.
Non, je ne connais pas.
Aeromobile, qui est une compagnie slovaque, Germain.
Ah.
Ça, la Slovaquie, là,
oui.
C'est une des parties de l'ancienne Tchécoslovaquie.
Ah, merci, professeur d'histoire.
T'as cette petite partie du monde-là, que je n'ai personnellement jamais visité, malheureusement, qui est un inventeur qui a construit... mais en fait, c'est une marque Aeromobile, là, puis il en est à sa quatrième version, donc la Aeromobile 4.0. Puis je te dirais que c'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui d'une auto-volante. Mais vraiment, on y est pas. Là. C'est un espèce de petit avion, dans le fond. Avec lequel tu peux rouler, puis ça te prend quand même une bonne piste de décollage puis d'atterrissage pour t'envoler puis pour atterrir, mais ça coûte très très cher puis on est vraiment vraiment loin du transport individuel accessible qui se fait dans les airs. Fait qu'écoute, je suis obligé de te dire, ça a pas l'air de te faire un pli malheureusement, mais je suis obligé de te dire que de toutes les technologies auxquelles t'as rêvé quand t'étais petit gars, la voiture volante, je sais même pas si tu vas voir ça de ton vivant, Germain. La voiture autonome va venir avant, je pense.
Bon, ça m'intéresse déjà un peu plus.
Puis peut-être que la voiture autonome, dans 20 ans, on va en rire. Puis on va dire, ah, tu te souviens-tu, il y a des constructeurs qui développaient des chars qui se conduisaient tout seuls. Puis...
On va en dire bien des affaires dans 20 ans.
Tu penses?
Oh oui.
En 2039?
Oh oui.
Eh là là, 2039.
Ben là, on a fini d'en dire, là. Évidemment, on parle pas de voitures volantes à tous les jours. Si vous avez envie de lire tout ce qui se passe sur l'automobile, vous pouvez le faire sur le site du Guide de l'Auto. Ne manquez pas l'émission de radio tous les samedis à 10h sur Cube.
Si vous aimez notre podcast, ben aidez-nous si vous voulez, puis partagez-le sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout sauf Twitter, dans le fond. Puis si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, ben n'hésitez pas, puis donnez vos commentaires, likez si ça se fait, là, je sais pas trop. C'est super utile pour faire découvrir notre série. On veut rejoindre le plus de monde possible. Fait que merci d'être là, puis n'hésitez pas à partager. Germain Goyer, toujours un plaisir.
Merci, Frédéric Mercier.
Merci beaucoup à Bastien Gagnon La France à la réalisation et au sympathique Philippe Séguin au montage.
C'était une production Cube Radio.